Radio Kapi.
L'actualité en ce week-end, c'est le score de parité d'un but qui a sanctionné le match aller de barrage pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 entre les Léopards de la RDC et les Lions de l'Atlas du Maroc hier vendredi. En début de ce journal, nous vous proposons les avis des Congolais vivant à Butembo quant à l'issue de cette rencontre. Dans ce journal parlé, la synergie des syndicats des enseignants va élever sa voix pour réclamer ses droits auprès du gouvernement selon leur convention. C'est en l'occurrence l'application du troisième palier de Bibois et la suspension de la retraite des enseignants qu'elle considère irrégulière. Guillaume Chizungu, chef de production à la centrale hydroélectrique Ruzizi 1, est l'invité que nous recevons en fin de cette édition. Il explique tout de suite les raisons de la baisse des productions d'énergie électrique dans les zones qu'il couvre. Fidèles auditeurs, merci de la confiance nous accorder en ce matin pour votre information. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Barrage de la Coupe du Monde Football Qatar 2022, les Léopards de la RDC ont été tenus en échec hier vendredi 25 mars par les Lions de l'Atlas sur le score de parité d'un but. Une rencontre amplement disputée par les deux équipes. Pour les Congolais, la RDC n'a pas démérité. Certains autres accusent l'arbitrage. Suivront les habitants de Butembo au micro de Grévis Salomon.
On est à 50-50. Une fois on se comporte bien au Maroc, on peut faire mieux, se qualifier. C'est sympa à dire que tout est perdu, mais on est décide du résultat. Bien qu'il y ait beaucoup de pression qu'on a exercée sur le Maroc.
Jusqu'à nous sommes encore nul. Donc il nous faudrait beaucoup travailler. On était déjà avec cette touffe de soulagement, mais malheureusement Covid de nous arracher juste à quelques minutes de la fin du match.
L'équipe n'a pas démérité. Les joueurs étaient bons sur le terrain. Ce que le coach doit travailler, c'est la récupération. La récupération n'a pas été bonne, surtout au milieu du terrain. On peut battre le Maroc chez lui. Tout n'est pas perdu. Juste le courage et corriger quelques erreurs.
Les prochains matchs, on va réussir. Les joueurs ont bien joué.
C'est vraiment quelque part de l'injustice face à l'arbitrage. Ça sonnait mal du point de vue congolité. Nous déplorons cette situation.
La synergie des syndicats des enseignants revendique l'application du troisième palier de Bibois par le gouvernement, le paiement dès le mois d'avril de leur salaire convenu et la suspension de la retraite des enseignants qu'elle considère irrégulière. Faute de s'exécuter, promet le porte-parole de la synergie, à partir du 19 avril prochain, tous les enseignants retraités devraient reprendre leur travail avec l'accompagnement des organisations des droits de l'homme, la VSV et l'AZADO. Ces enseignants retraités l'ont fait savoir jeudi au cours d'une tribune leur offerte par la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme et l'AZADO. Jean Bosco Pouna, porte-parole de la Synergie, résume ainsi les actions à mener pour rétablir les enseignants dans leurs droits. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Comme vous le savez, le syndicat est un mouvement de pression. Camarade A, si tu parles, si tu t'étais, alors... Mais nous savons également que le mois d'avril, c'est la ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Parce que si au mois d'avril, on ne paye pas les salaires que le gouvernement a promis, je crois que c'est le gouvernement qui mettra les enseignants dans l'impossibilité de pouvoir continuer à travailler. Deuxièmement, tout retraité qui est ici, qui a touché les forfaits, à partir du 19, nous allons avec la SADO, avec la VSV, avec les autres institutions de défense et de promotion des droits de l'homme, nous allons accompagner les différents enseignants pour qu'ils reprennent le travail. Deuxième chose, nous allons organiser un deuxième sit-in avant que nous n'atteignions la date du 19, pour que finalement, nous puissions avoir le deuxième et troisième palier des Bibois que le gouvernement nous a promis. Et je crois que si le gouvernement ne le fait pas, il sera tenu seul, responsable de tout ce qui arriverait.
En plus bref, 10 civils ont été enlevés par des présumés rebelles ADF jeudi en Diva, un village du groupement Bahoumou dans la chefferie de Wataling en territoire de Beni. Selon la présidente de la société civile de Wataling qui livre l'information, ce kidnapping a eu lieu lors d'une incursion de ces rebelles dans le village. Odette Zawadi indique cependant que 3 autres personnes, dont une femme, se sont échappées des mains de leurs ravisseurs quelques heures après dans la vallée de Sololo. Aucun cas de mort n'est à déplorer, indique notre source. Et puis, la dynamique femmes et familles. Une ONG de l'Église du Christ au Congo va élargir son domaine d'intervention en apportant de l'aide aux victimes des violences sexuelles basées sur le genre de la ville de Matadi. Dans le cadre de la poursuite des activités liées au mois de mars dédiées aux droits des femmes, cette structure a réuni un échantillon des victimes pour un partage d'expériences. Odette Matuel, la présidente de la Dynamique Femmes et Familles, me dit que l'objectif est de militer pour la promotion des droits de la femme et de la jeune fille à travers leur autonomisation. Nana Plurish Mambou.
C'est en pleurs que ces femmes et jeunes filles, victimes des différentes formes de violence, ont brisé les tabous en se partageant leurs expériences tragiques vécues. Pour la présidente de l'ONG des dynamiques Femmes et Familles, cette séance de partage aidera ces victimes à se débarrasser du poids de la stigmatisation qui bloque leur épanouissement. Odette Mantuela.
Notre souhait est que ces filles sortent de leur coquille et qu'elles parlent. Parfois, on est sujet de stigmatisation. Alors, nous devons nous débarrasser de tout stéréotype. Parce que quand nous parlons, ça nous dégage aussi.
Pour la police de protection de l'enfant, de la femme et de la prévention des violences sexuelles basées sur les genres qui accueillent et accompagnent juridiquement toutes ces victimes, les statistiques des victimes de violences sexuelles au Congo central sont alarmantes à cause de l'apaisanteur culturel. Colonel Madeleine Pezo, commandant de ce département de la police, invite les victimes à dénoncer les abus auxquels elles font face.
Ne nous taisons pas. Plus d'une femme est morte pour ne pas avoir dénoncé. Venez, nous sommes là pour vous. Donc les statistiques des femmes violées sont vraiment élevées.
Ces victimes, dont bon nombre sont devenues mères, vont après cette séance de partage bénéficier d'une réinsertion professionnelle et économique de la part de la dynamique Femmes et Familles. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, deux agents de la police de circulation routière de la ville de Bukavu sont aux arrêts et une action disciplinaire est ouverte à leur charge. Décision prise jeudi par le commissaire provincial de la PNC sud Kivu. Il accuse ses agents de tracasser les usagers sur la route. Ces policiers ont été surpris en train de tracasser un chauffeur au volant de sa voiture pendant la journée. La scène a été filmée et divulguée sur les réseaux sociaux. Ainsi, le commissaire provincial de la police, Jean-Bernard Bazengue, invite la population à pouvoir s'armer du courage pour dénoncer tous les cas similaires. On l'écoute au micro du service des communications de la police nationale congolaise au sud Kivu.
On m'a balancé aussi les mêmes images et immédiatement, je devais réagir en tant que responsable. En tout cas, les choses se sont passées très très vite puisqu'il fallait une action dans le sens de dissuader tous ceux d'entre les policiers qui se livrent à ce genre de tracasserie. Les services de renseignement généraux ont été instruits d'ouvrir une action et une mesure conservatoire a été prise de les radier carrément de la PCR. Et la population doit savoir que les responsables au niveau de la police ne peuvent pas cautionner ce genre de comportement. Et à l'avenir, dès que nous avons des informations dans ce sens-là, nous n'allons pas hésiter de châtier ou de prendre des mesures idoines pour redresser quand même la discipline au sein de nos rangs. Donc la suite suivra puisqu'il y a tout un dossier.
Parlons à présent de ce lancement vendredi 25 mars 2022 de la campagne de vaccination contre la pandémie à COVID-19 pour toute l'étendue de la province du Kwilu. La cérémonie officielle a eu lieu dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Bandundu à Bandundu-Vide, chef-lieu de la province. C'est le gouverneur Willy Itundala Asang qui a solennellement lancé cette campagne en présence de plusieurs membres du gouvernement provincial, du représentant du président de l'Assemblée provinciale et des cadres du service de la santé. Plus de détails dans ce reportage de Irène Boma.
Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée ce vendredi à Bandunduville va durer 14 jours et c'est là dans 110 sites de vaccination sélectionnés à travers toutes les 24 zones de santé que compte la province de Kwilu. Les chefs de division provinciale de la santé intérimaire a précisé qu'au total, 272 398 personnes sont attendues pour être vaccinées en cette première phase sur les trois prévues. Docteur Raoul Mungeri explique.
Nous avons Johnson Johnson.
Nous avons les Pfizer.
Les Moderna. C'est une campagne spéciale. Ce n'est pas les porte à porte, c'est en fixe. La première phase que nous faisons ici, c'est pour nous comme un test. Si nous atteignons déjà les 10%, ça sera un grand objectif pour nous.
Prenant la parole pour lancer solennellement cette campagne de vaccination, le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Itundala, a sensibilisé la population sur l'importance de se faire vacciner.
C'est volontaire, c'est aussi facultatif, ça signifie à chacun d'exploiter sa santé. Celui qui pense qu'il veut survivre, qu'il puisse se faire vacciner. Celui qui pense qu'il veut périr, qu'il s'abstient au vaccin. Donc j'invite toute la population à se faire vacciner, c'est pour se protéger pour l'avenir.
Signalons que depuis l'avènement du coronavirus en RDC, le Kwilu a notifié plus de 225 cas, dont 25 décès. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans le Congo central, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est l'espoir pour sauver la province du chaos. Celle-ci ne peut se transformer en une vente aux enchères du Congo central. C'est ce qu'a déclaré jeudi 24 mars Maître Mavinga, président provincial du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. C'était à l'issue d'un culte organisé à Matadi et dans toute la province à l'occasion de la commémoration du 53e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, premier président de la RDC. Dans sa déclaration, Maître Mavinga appelle au sens citoyen et républicain des députés provinciaux en cette période électorale. Le président du BDM Congo Central est au micro de Nana Plurish Mambu.
Nous remercions le président de la République et chef de l'État pour avoir élevé les premiers présidents de la République démocratique du Congo au rang de héros national 51 ans après sa mort. Nous relevons néanmoins que le chemin à parcourir reste relativement long pour éviter que notre Mbuta Kasavubu soit un héros sans gloire. À savoir que la journée dédiée à son honneur, soit le 24 mars, n'est pas encore déclarée chômée et payée à l'instar des autres héros nationaux de sa trempe, réaffirmant notre foi à l'engagement politique et en leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, axé sur l'état des droits et la bonne gouvernance, nous en appelons par ailleurs au sens citoyen et républicain de nos députés provinciaux à cette période électorale. Nous déclarons que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, prévue le 6 mai 2022, est pour nous l'espoir pour sauver notre province du chaos et nous ne tolérerons pas dès lors qu'elle se transforme en une vente aux enchères ou en une vente publique de notre province où le mieux offrant, soit le meilleur corrupteur, se verra octroyer les trophées de gouverneur élu du Congo central.
L'Église catholique de la République démocratique du Congo s'enrichit d'un nouveau diocèse. Dans un communiqué de presse rendu public le vendredi 25 mars, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, annonce la création par le pape François d'une nouvelle circonscription ecclésiastique dénommée diocèse de Chilomba dans la province de Lomami. Selon ce même communiqué, ce nouveau diocèse sera dirigé par l'évêque nommé par le pape François pour ce besoin, Sébastien Kendantumba. D'autres détails avec vous, Pierrot et la Mégie.
D'une superficie de 11 747 km² pour 792 000 croyants catholiques, le diocèse de Chilomba est constitué par les démembrements du diocèse de Luisa, dont les territoires s'étendaient de la province administrative du Kasaï central jusqu'à la province administrative de Lomami. Et le communiqué de la CENCO renseigne que le territoire du nouveau diocèse de Chilomba correspond à toute la partie de Luisa qui se trouvait dans la province administrative de Lomami. Son siège est situé à Chilomba, dans les territoires de Lulu, et son église cathédrale sera l'église de Saint-Jacques à Chilomba. Ce communiqué précise également que l'abbé Sébastien Kendantumba, du clergé diocésain de Luisa, a été nommé par le pape François, premier évêque de ce nouveau diocèse. Et enfin, la CENCO indique que jusqu'au jour de la prise de possession du nouvel évêque, Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa, conserve les pouvoirs ordinaires sur les diocèses de Chilomba.
Actualité internationale.
La CEDEAO débute un sommet sur la crise politique malienne, 3 mois après la mise en place des lourdes sanctions contre le pays. Hier vendredi à Accra, les discussions se sont ouvertes à huis clos entre les chefs d'État. Selon un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le chef de la junte, Assimi Goïta, a été convié au sommet. Plus tôt dans la semaine, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a ordonné la suspension des sanctions envers le Mali jugées illégales par la junte. La CEDEAO demande la tenue d'élections dans les 12 à 16 mois pour un retour à un régime civil alors que le gouvernement militaire annonce un délai de 5 ans. Il y a une semaine, une délégation de la CEDEAO s'est rendue à Bamako, mais les discussions n'ont pas abouti. Le 9e Forum mondial de l'eau qui a pris fin vendredi à Dakar après une semaine de travaux a lancé un appel à la communauté internationale à garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Ce forum était organisé par le Conseil mondial de l'eau et le gouvernement du Sénégal. Dans un document intitulé « Déclaration de Dakar », un « Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement », les participants au forum réclament l'accélération de l'application du droit à l'eau potable. Enfin, l'eau doit faire l'objet d'une coopération renforcée entre différentes entités régionales ou internationales.
L'invité.
La centrale hydroélectrique Ruzizi 1 dans le sud Kivu connaît actuellement une baisse de sa production. Cette situation est la base de délestage répétitif qui s'observe dans la ville de Bukavu en cette période. La SNEL signale que la perturbation dans la fourniture en électricité est causée par la pollution du lac Kivu qui affecte tout le système de fonctionnement du barrage Ruzizi 1. Cynthia Bachizi a visité cette centrale ce mercredi. Elle s'est entretenue sur place avec Lievin Chizungu, le chef de production. Suivez.
Lievin Chizungu, bonjour.
Bonjour, madame.
La ville de Bukavu connaît pour le moment beaucoup de pannes d'électricité et on aurait appris que c'est à cause de la pollution dans le lac Kivu. Comment ça se fait?
Effectivement, nous connaissons beaucoup de problèmes avec les déchets que la population jette dans le lac Kivu et que tout vienne échouer ici au niveau du barrage. La centrale a été conçue de façon à fonctionner avec les 4 machines que vous voyez ici et que nous puissions être en mesure de produire 30 mégawatts, disons au maximum. Mais avec les déchets qui viennent maintenant, nous avons de grilles à chaque entrée d'une machine. Quand les déchets viennent coller sur ces grilles, premièrement, ils empêchent à ce que l'eau puisse entrer vers les turbines. Alors, et à ce moment-là, la turbine ne sait plus produire sa puissance nominale. Il y a chute de pression et par conséquent, baisse de production. À ce moment-là, nous devons venir nettoyer ces grilles et nous devons baisser sensiblement encore la production pour que les saletés qui étaient collées sur la grille puissent être facilement enlevées. Et pendant ce moment-là, c'est d'abord le délestage dans la ville.
En parlant d'opération de nettoyage, nous sommes ici sur le site, nous voyons qu'il y a des piroguiers qui viennent dégager certains détritus, mais il y a aussi de plongeurs professionnels venus renforcer l'équipe de nettoyeurs ici sur place.
Oui, évidemment, les problèmes d'abord des détritus avaient causé le problème de fonctionnement du groupe numéro 2. Parce qu'ici, nous avons 4 groupes. Le numéro 2, là, avait été arrêté depuis le 28 janvier 2022 parce que nous devrions intervenir sur la route. Parce que si on n'avait pas arrêté cette machine, peut-être même c'est toute la centrale qui pouvait s'arrêter avec les problèmes de fuite d'eau. L'origine de ces fuites d'eau avait été causée par des éléments durs qui étaient partis détruire la porte de visite de la roue. Alors, quand nous avions arrêté cette machine, pour intervenir, il fallait aussi bloquer complètement l'eau afin que ça n'entre pas. Donc, il fallait faire entrer les batardeaux.
C'est quoi un batardeau?
Les batardeaux, ce sont les portes étanches que nous mettons en amont de tous les équipements pour empêcher que les eaux n'entrent vers la turbine. Et afin de permettre aux gens d'entrer à l'intérieur et d'intervenir. Alors, comme nous, on voulait maintenant poser ces batardeaux allaient se poser sur encore d'autres corps. Ce sont les arbres que vous voyez là-bas, même des grumes et tout ça. Donc quand la population jette des histoires, il y a ceux-là qui vont jusqu'au fond, mais qui sont aspirés toujours vers la centrale. Quand on descendait les batardeaux, ça ne tenait pas. Il y avait toujours des fuites énormes. Donc il fallait maintenant des travaux subaquatiques.
Donc en profondeur.
Oui, en profondeur, pour aller dégager aussi ces détritus-là qui sont déjà posés et collés à ce niveau-là. On les a déjà posés, comme vous venez de dire, avec l'aide des plongeurs. Et effectivement, en descendant, ils ont trouvé que non, il y avait tellement de déchets que les batardeaux ne pouvaient pas se poser.
Alors, chose étonnante, le lac a toujours été pollué. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'environnementalistes se sont toujours levés pour dire halte à la pollution dans le lac. Alors, il n'y a pas moyen de solutionner ce problème en amont et ne pas attendre qu'il y ait énormément de détritus pour arrêter certaines machines.
Oui, il y a plus de solutions. C'est qu'il faut toujours continuer à sensibiliser. Et tous les jours, nous sommes là pour dégriller. Donc, pendant la saison de pluie, on dégrille chaque jour. Et là, c'est pendant au moins 4 à 5 heures pour dégager les détritus. Donc, s'il pleuvait aujourd'hui, vous auriez vu des tas d'immondices ici. Donc, il faut continuer toujours à sensibiliser la population. C'est vraiment un fléau. On jette toujours sans gêne. Peut-être même à la limite, commencer à sanctionner. Il y a d'autres solutions techniques et nous sommes en processus avec notre hiérarchie de voir comment est-ce qu'on peut ériger un barrage flottant qui a plus ou moins 300 mètres du barrage, pour commencer à retenir ces saletés. Mais à un certain moment, si ces saletés sont beaucoup plus nombreux, le barrage aussi peut céder. Bon, là aussi, évidemment, il y a de petites entreprises qui sont en train de traiter les détritus. Bon, on s'est déjà intéressé à ceux qui sont venus nous poser des problèmes. On pense que nous allons travailler avec eux, voir comment nous aider à commencer à prendre les détritus et les traiter un peu plus en amont.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Voilà comment se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.